Love Me Tender sur les ondes de FMR 89.1 et dans le monde entier sur l'ondemiroir.fr ou sur le site de la CAF Poésie. 24 heures non-stop de lecture de lettres d'amour en direct et en public depuis la CAF Poésie. N'hésitez pas à nous rejoindre, il y a du café, il y a du thé, il y a des petits croissants. Nous allons maintenant enchaîner avec un quintet cette fois. Nous allons passer d'une autrice du XVIIIe siècle à une autrice contemporaine, Marie-Ange Guillaume, avec le Lector Studio qui va nous lire « Il s'en allait faire des enfants ailleurs ». Love Me Tender, le Lector Studio, c'est parti.
La faute à Ève. D'abord, elle a goûté la pomme, même que ce n'était pas bon. Il n'y avait rien d'autre alors, en somme, elle a eu raison. Eh bien, non. Ça l'a pourtant arrangé, l'homme. C'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche, il a bouffé la pomme jusqu'au trognon, et vite fait.
Oui, mais c'est la faute à Ève. Il n'a rien fait, lui, Adam. Il n'a pas dit « Femme, je crève, rien à se mettre sous la dent ». D'ailleurs, c'était pas terrible, même pas assaisonné. C'est bien écrit dans la Bible, Adam est mal tombé.
Après ça, quand Dieu en colère leur dit avec des hurlements « Manque une pomme à l'inventaire, qui l'a volée, c'est toi, Adam ?» Ève s'avance à fanfaronne et dit « Mais non, papa, c'est moi. Mais d'ailleurs, elle n'était pas bonne, faudra laisser mûrir, je crois. »
Alors, c'est la faute à Ève s'il les a chassés d'en haut. Et puis Adam a pris la crève, il n'avait rien sur le dos. Ève a dit « Attends, je cueille. Des fleurs, c'était trop petit. Fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi. »
Après ça, quelle triste affaire. Dieu leur a dit « Faut travailler. » Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ? Ève alors a dit « J'ai trouvé. » Elle s'arrangea, la salope, pour faire et porter les enfants. Lui poursuivait les antilopes et les lapins pendant ce temps.
C'est vraiment la faute à Ève. Si Adam rentrait crevé, elle avait une vie de rêve. Elle s'occupait des bébés, défrichait un peu la terre, semait quelques grains de blé, pétrissait bois et soupières, faisait rien de la journée.
Pour les enfants, ça se complique. Au premier fils, il est content. Mais quand le deuxième réplique, il devient un peu impatient. Le temps passe, Adam fait la gueule. Il s'aperçoit que sa nana va se retrouver toute seule avec trois bonhommes à la fois.
Là, c'est bien la faute à Ève. Elle n'a fait que des garçons. Et le pauvre Adam qui rêve de changer un peu d'horizon. Lui faudra encore attendre de devenir grand-papa pour tâter de la chair tendre, si même il va jusque-là.
En plus, pour faire bonne mesure, il nous a collé un péché. Qu'on se repasse et puis qui dure, elle a vraiment tout fait rater. Nous, les filles, on est dégueulasses. Pareil que ça nous est naturel. Et les garçons, comme ça passe par chez nous, ça devient pareil.
Mais si, c'est la faute à Ève, comme le bon Dieu l'a dit. Moi, je vais me mettre en grève. J'irai pas au paradis. Non, mais qu'est-ce qu'il s'imagine ? J'irai en enfer, tout droit. Le bon Dieu est misogyne, mais le diable, il ne l'est pas.
Ha ah ah.
Il s'en allait faire des enfants ailleurs. Il y a de la neige partout, et cette année-là, la chute des températures bat les records saisonniers. Il est brun, avec dans les yeux le reflet de toute cette blancheur. Il croque des carottes crues en écoutant « Salut les copains ». « C'est qui cette fille ?» s'informe-t-il d'une voix flémarde. « C'est moi. » Il m'apprend à tenir debout sur mes skis. Quand il n'y a plus de neige, on s'aime par lettres. Les siennes viennent de Nantes et je guette les mots d'amour dans sa petite écriture serrée. Le reste ne m'intéresse guère. On se voit en cachette et dans l'hiver, on passe la journée entière à s'embrasser au bord de la Loire qui coule chez moi et chez lui. L'eau est grise et l'herbe gelée. Sa bouche est le seul point chaud du paysage. On parle à peine. Quand on se quitte, c'est au bout du pont métallique qui traverse la Loire et je reviens plusieurs fois sur mes pas. Il me regarde partir et revenir. On pleure et il rate son train. Je l'apprends dans la lettre suivante. Un jour, il m'écrit qu'il bricole un avion miniature dans son salon. Je pâlis. Je n'ai pas de salon. Quand on ne se reverra plus en cachette, quand il viendra chez moi, il s'en apercevra forcément. Pour parer à cette humiliation, je romps brutalement, sans explication, très malheureuse et inflexible. C'était le premier.
Le premier. Si maintenant cet amour-là me revenait en pleine gueule, avec mes 16 ans, et sa main sur la mienne comme une étonnante brûlure, j'irais me coucher en rond avec un couinement de vieux chien perclus. Je ramasserais mes pattes et mes oreilles et je dirais non. Au fil des amours et des années, le muscle du cœur se met à deviner. Il sait que ça va faire mal et il dit non. J'aurais aimé passer ma vie avec ce rongeur de carottes, pour la beauté de l'image, ne connaître qu'un corps, un rire unique et une seule tendresse, et ne jamais rien savoir de la liberté. Mais je n'avais pas de salon. Et aujourd'hui, si je compte mes amants sur mes doigts, il me manque une bonne douzaine de mains. Pourtant, je n'ai jamais collectionné. Pour collectionner, il faut un brin d'optimisme. Il faut croire aux vertus de l'accumulation et du rangement. Je voulais seulement l'amour comme au ciné, cadré à mort, une fois qu'on a balancé les chutes à la poubelle. Je n'ai vécu que des chutes, avec entrain. On ne sait pas à l'avance qu'on s'est levé le matin pour aller tourner une chute.
Il n'y a rien d'autre dans la pièce que le lit. Il me fait l'amour beaucoup trop longtemps, mais je n'ose pas lui dire. Il parle toujours de m'emmener avec lui à la frontière de je ne sais plus quel pays en guerre. Cette idée ne m'enthousiasme pas. Et des récits qu'il me fait, il me reste des images de barbelés. Il est très doux et solitaire. Il n'aime pas ma bande de copains. Il me plaît et je le fuis. 8 ans plus tard, il retrouve ma trace à Paris dans la librairie où je travaille. Il arrive sans prévenir, comme s'il venait de me quitter, avec 2 crêpes au miel qui dégoulinent sur ses mains, sur la moquette et sur ma jupe. Il a envie de campagne, d'une maison avec une femme et des canards. Il dit tout ça très vite et me propose d'aller boire un verre. Je refuse. Quelques jours plus tard, encore triste d'avoir laissé partir assez froidement ce type qui m'a toujours touchée, je vois arriver un de nos anciens amis communs. Je dis quelque chose de gai et virevoltant du genre « Ben ça alors, tu parles d'un hasard. Je vais te donner l'adresse de ma mère pour Guy, au cas où me le chercherait dans 10 ans. » L'ami me répond que, justement, il est venu me parler de Guy. Et il ne sait plus comment me dire qu'il s'est tué, la carabine dans la bouche, après avoir fait le tour des gens qu'il aimait, pour voir.
Il a une 4L et un blazer bleu marine. Il enlève son blazer et le plie soigneusement. On fait l'amour à l'arrière de la 4L, devant ma maison. Après, bien au chaud dans mon lit, je l'entends qui n'arrive pas à redémarrer.
Il est grand, solide et maladroit. Il parle avec ses mains, mais il n'est pas bavard. On fait l'amour sur le bord de la Loire, sous une pluie fine et froide qu'il ne sent pas. Pour lui, c'est la première fois. Et pendant longtemps, il reconnaîtra l'amour à ce symptôme. Insensibilité totale à la pluie, à la neige, à la merde ambiante. Il me fait un cadeau. Des milliers de perles de bois anciennes, peintes et sculptées, en guirlande sur les murs de son atelier. C'est un cadeau intransportable. 20 ans plus tard, on se retrouve un soir de Noël, près de la Loire, toujours. On n'a pas changé. On rejoue la même pièce. Il se tait. Je m'agite. Je jacasse. Il me regarde. Il boit de la bière. On n'entend que moi. Il rit de temps en temps. On s'en va. « Ah, dans 20 ans !» dit-il. À nous retrouver si semblables, l'un en face de l'autre, je me demande si je quitte vraiment les gens, ou s'ils restent là, invisibles au fond de ma poche, intacts, et moi aussi.
Il a un truc, une caresse précise à un endroit précis du ventre qui rend folle n'importe quelle femme en 3 secondes. C'est infaillible, chirurgical et, pour tout dire, humiliant.
Me dit « Viens là !» Me fait mal. Je tâte le terrain, j'ai le trac. On ne se voit pas très souvent, non ? Me dit « C'est ça ou rien ?» Il a une gueule de nordique et une sensibilité de tank.
Il est blond, il est étudiant. Il partage la chambre voisine avec un ami. Il a perdu sa clé et attend son ami assis dans le couloir. Je lui propose ma clé, qui n'ouvre que ma chambre, bien sûr. Il est brun, il est étudiant. Le blond lui a dit que j'avais la peau douce. Il fait semblant d'avoir perdu sa clé. Il m'amuse. Puis il me trouve très tendu sous ma peau douce et me prépare une tisane calmante à une époque où je carbure au Temesta comme un clodo au 12 degrés.
Il fait des phrases sur les mouettes, le cri des mouettes, le vol des mouettes, les flots tumultueux sur lesquels tanguent les mouettes. Puis, on se rapproche du sujet. Il fait des phrases sur son mauvais rapport au corps. Il a raison. Dès qu'il cesse de faire des phrases, il n'est plus bon à rien.
Un détail me rappelle vaguement quelque chose. Ces incisives qui se chevauchent. Je lui dis « On s'est déjà vu quelque part, non ?» Il m'informe avec jovialité qu'on a passé 8 jours ensemble quelques années plus tôt. Il accumule les précisions susceptibles de faire remonter en moi un souvenir qui ne remonte pas. Il va s'effondrer. Tout à coup, une lueur. Je lui dis « Ah oui, ta femme s'appelle Françoise. »
Il caresse mes cheveux doucement, il murmure et sourit, m'électrise, me contemple avec un calme souverain, me fait mariner. Dieu sait pourquoi il me fait penser aux meubles luisants polis par les ans. Et puis un jour, brutalement, sévèrement, il me congédie, sans raison véritable. D'instinct, en souvenir de sa mère, il se venge d'une femme qui ne lui a encore rien fait.
On s'aime dès les premiers mots, d'autre chose que d'amour. On fait l'amour quand même, en général dans une maison lointaine, pleine d'inconnus, de chats tigrés et de téléphones. Le matin, extrêmement sensible au froissement de l'air autour de nos gueules de bois, on avale des litres de café. On mange du poulet. Et puis, on sort dans le jardin en automne pour rire un peu de nos grands sentiments, de nos tentatives de bon à rien. Mais ce qui reste au bout du compte, 15 ans après, c'est qu'on s'est aimé dès les premiers mots et qu'on ne s'est jamais lâché.
Il tâtonne à la recherche de ses lunettes. Il m'explique que sans ses lunettes, il n'entend plus. Il retrouve ses lunettes, mais je n'ai rien à dire. Il en déduit que je suis une drôle de fille. Je réponds que lui aussi est un drôle de type. Très étonné, vivement intéressé, il me demande pourquoi. Je reste muette. Je disais ça pour meubler. Je ne le trouve pas drôle.
C'est un gamin et je ne suis plus une gamine. On fait la course sur les quais de la Seine. On tire les sonnettes, on mange 6 glaces à la suite. Les cracheurs de feu l'amusent beaucoup. Il est si facilement émerveillé que je me couvre peu à peu de poussière. On dort chez sa sœur. Le lendemain, il dit qu'il ne veut pas m'épouser tout de suite parce qu'il doit d'abord penser à sa carrière.
Il est trop mignon pour être vrai, trop tendre. On s'amuse trop bien ensemble. Il a une trop belle voiture avec laquelle il part vivre ailleurs. Il sort d'un grandiose chagrin d'amour. Et l'amour, il en a marre.
Petit bonhomme, le mari de Marie-Vonne était mon amant. Quelquefois, je m'en étonne encore maintenant. Au début, tout feu, tout braise, il était gentil. Quand il se mettait à l'aise, il refaisait le lit, il me disait « Tu es belle », après comme avant. Il descendait la poubelle en repartant.
Là là là, petit bonhomme, comme on est bien élevé. C'était grâce à Marie-Vonne, il me l'avait caché. Là là là, petit bonhomme, comme on avait bien menti. Ma femme est une matrone, il m'avait dit.
Le mari de Marie-Vonne était mon amant, mais il m'appela Bobonne au bout de pas longtemps. Puis je rencontrai sa femme qui me dit « Merci, depuis qu'il vous a dans l'âme, il ne vient plus ici. » Il m'avait dit « Marie-Vonne est un vrai boudin, toujours elle me cramponne et ça me dit rien. »
Là là là, petit bonhomme, comme on est mal élevé. Marie-Vonne est très mignonne, il me l'avait cachée. Là là là, petit bonhomme, comme on avait bien menti, ma maîtresse est une conne, il lui avait dit.
Le mari de Marie-Vonne n'est plus mon amant. Comme il n'a trouvé personne, il est chez sa maman. Marie-Vonne et moi, on pense qu'on pourra bientôt se prendre un peu de vacances, un peu de repos. Mais voilà que Marie-Vonne m'apprend ce midi. Sa belle-mère lui téléphone. Elle vient aussi.
Là là là, petit bonhomme, ça commence à se gâter. Il la prenait pour sa bonne. Elle en a eu assez. Là là là, petit bonhomme, comme on avait bien menti. Ma mère est une gorgone, il avait dit.
Le mari de Marie-Vonne a pu se recaser. C'est Sophie qui lui redonne un peu de volupté. Au début, tout faut tu braises. Il sera gentil. Quand il se mettra à l'aise, il refera le lit. Il lui dira « Tu es belle ». Après, comme avant, il descendra à la poubelle en repartant.
Là là là, petit bonhomme, mais ça ne va pas durer. Quand il lui dira Bobonne, elle va se tirer. Moi, sa mère et Marie-Vonne, on l'a bien dit à Sophie. On t'attend, ma toute bonne, dans le midi.
Si longtemps ça recommence, on va se retrouver toute une colonie de vacances.
On va bien s'amuser.
Nouons-nous, Emmanuel Pagano.
Mes parents avaient un verger qui leur était leur grande fierté et qui prenait tout leur temps libre. Ils s'en occupaient tôt, avant d'aller au travail, dès qu'ils en rentraient et parfois même après le dîner. Nous en profitions pour nous fréquenter en cachette dans ma chambre. Je pouvais voir le verger de ma fenêtre. Je vérifiais l'avancée des travaux de jardinage de mes parents entre 2 longs baisers. Les arbres étaient parfaitement alignés, presque rangés. Chaque arbre portait les fruits qui correspondait à son nom, sans erreur possible, dans un ordre au cordeau, cerisier, pommier, abricotier, puis devant eux, poiriers, figuiers et pruniers, et devant eux encore, tout près de ma fenêtre, les rangées des arbustes, soutenus par des tuteurs et des fils de fer. Les milliers de framboises, de myrtilles, de groseilles, parfumait mes mains tardives lorsque j'aérais ma chambre à la demande quotidienne et pressante de ma mère. Je me moquais de mes parents et de leur rigueur à toute épreuve. Ils auraient bien été capables de faire leur plantation par ordre alphabétique. Mais pendant que nous rions d'eux, à la faveur d'un câlin trop long, Mon père nous a surpris, l'a chassé, m'a puni. Consignée dans ma chambre, en plein mois d'août, pensive à ma fenêtre, je rêvassais en regardant le verger. J'espérais qu'il viendrait me délivrer. Il est venu, la nuit suivante. J'ai entendu des bruits de branches. Il faisait très chaud. Cela m'avait donné un prétexte pour laisser la fenêtre ouverte. Je le voyais trafiquer dans les arbres, torse nu. Il n'était pas seul. Il m'a fait signe de me recoucher en m'envoyant un baiser, de loin. Déçue, je me suis remise au lit. Aux premières lumières du matin, je me suis précipitée à la fenêtre. Mon père était déjà au verger, immobilisé devant la métamorphose de ses fruitiers. Au pêcher, il y avait des poires. Au poirier, des abricots, lesquels avaient été remplacés par des prunes. Au prunier se balançaient des figues fraîches. Il avait travaillé à sa petite vengeance toute la nuit, avec l'aide de ses nombreux copains. Ils avaient cueilli tous les fruits et, chaque queue patiemment nouée à un fil de pêche, ils les avaient changés de place.
Mon compagnon est accordéoniste. Il fait les bals, les mariages, les anniversaires, les départs en retraite et parfois il accompagne les parlottes de soirées culturelles, lectures, poésie, découverte du terroir. Je l'ai rencontré au mariage de ma meilleure amie. Je m'ennuyais tellement que je m'étais mise à regarder les gens. J'ai toujours un livre dans mon sac, mais j'avais peur de paraître mal polie en le sortant. Alors, je regardais les gens. Ils étaient tous si serrés, engoncés. Un seul ouvrait les bras, et c'était lui. Pour faire de la musique, il embrassait l'air, il accueillait le vide, il respirait à grands gestes. Je suis tombée dans l'ouverture de ses bras. Au sens propre, j'ai rempli ce creux, cette soufflerie, sa poitrine musicale. Je voulais entendre les bruits de son large cœur, désordonné par le désir, rassemblé par l'accordéon.
Elle et moi, c'est une histoire d'attente depuis le début. C'est toujours moi qui attends, je m'y suis habituée. Elle est toujours en retard. J'arrive à l'heure car je ne sais jamais de combien va être son retard. Parfois quelques minutes seulement, parfois plus, beaucoup, beaucoup plus. J'arrive à notre rendez-vous et je me dis, maintenant, le retard va commencer. Je lis. J'ai toujours des livres pour son retard, mais c'est plus fort que moi. Au bout de quelques chapitres, je m'inquiète déjà. Je m'inquiète pendant je ne sais combien de pages.
Il avait entamé sa vie d'adulte en mourant, comme beaucoup d'adolescents, mais lui n'avait jamais cessé. Il mourait souvent, tous les 2-3 ans, et rien ni personne n'avait jamais pu l'en empêcher. Il se ratait, se relevait. Il reprenait goût à tout, rencontrait une nouvelle compagne. Parfois c'était la même, mais pour lui c'était une autre. Tout était toujours nouveau pour lui. Il était alors à chaque nouvelle vie ouvertement joyeux. J'ai été une de ses nouvelles compagnes, la dernière. Pendant ses renaissances, il avait même eu des enfants, dont un avec moi. Il était vivant. Et puis, sans que rien d'abord ne le laisse entrevoir, il mourait. Ses 4 enfants étaient en bonne santé, il l'aimait, je l'aimais, il avait un bon travail, tout allait bien et soudain, voilà, il recommençait à mourir avant de renaître, comme neuf. On aurait presque pu croire qu'il changeait de peau, qu'il muait, s'il n'y avait eu toutes ces cicatrices, les traces de ses morts à chaque fois plus nombreuses et profondes. Il n'avait jamais pris de médicaments, il mourait toujours violemment. Il mourait à la corde, à la noyade, au fusil de chasse. L'avant-dernière fois avait emporté tout le bas de son visage et malgré tout, il s'était relevé souriant, souriant sans menton.
Je l'ai quitté parce que pour lui, seules les mathématiques comptaient. Oui, comptaient, c'est le mot. Et moi, je n'étais rien, qui ne savais même pas mes tables par cœur. Il pensait que les mathématiques sont à l'origine du monde, de son ordre, de sa beauté. Il me parlait de formules mathématiques qui narguent l'impossible par de simples changements de point de vue. Rien ne pouvait leur échapper. Ni la relativité générale, ni la mécanique quantique, ni la chimie, ni l'informatique, ni la biologie ne pouvaient s'en affranchir. Je le prenais dans mes bras et lui disais « Tu sais, je suis là. » Il me répondait « Sans elle, ma belle, tu n'existerais pas, ni toi, ni tes paroles, tu n'existerais même pas comme simple éventualité théorique. Rien n'existerait, tu comprends ? Et ni la structure en double hélice de l'ADN, ni la topologie de l'univers, ni la géométrie d'une protéine, d'un simple ballon de foot ou d'une fugitive bulle de savon n'aurait le moindre sens sans elle. D'elle viennent notre espace, notre temps, toutes nos émotions et nos sentiments. Je lui demandais comment il pouvait en être si sûr. Il souriait. Tu ne comprends pas. Les maths ne sont pas une invention de l'homme. Seule la manière que l'humanité a d'exprimer ce qu'elle en a compris, si peu, est une invention de l'homme. Les maths préexistent à l'homme. L'homme se doit de respecter les rigoureux commandements de la logique. Quand il ne parvient pas à comprendre, il tente de conjecturer, d'imaginer. C'est ce qu'il a dû faire, jusqu'à trouver une explication mathématique à mon départ, une équation implacable.
Les agents immobiliers ne s'aperçoivent de rien, les propriétaires non plus. Nous nous aimons dans leurs appartements, nous y dormons. Nous y avons notre vie à deux, elle en vaut bien une autre. Nous changeons tous les jours de quartier, de ville. Nous partons toujours au petit matin après une petite toilette. Nous nous habillons, je me maquille, nous sortons, nous prenons un bus ou un train, nous mettons nos affaires à la consigne de la gare, puis nous arpentons le nouveau quartier, la nouvelle ville, et, en fin d'après-midi, nous allons visiter des appartements, bras dessous, comme un jeune couple amoureux que nous sommes. Nous nous arrangeons pour nous voir proposer des visites libres. On nous confie une clé. Nous faisons quelques courses rapides, nous retournons à la consigne, nous prenons nos affaires, nous nous rendons au nouvel appartement, souvent vide, parfois encore un peu meublé. L'un de nous rend la clé à l'agence, pendant que l'autre reste dans l'appartement, s'installe, prend un bain si l'eau est chaude, prépare un repas froid sans vaisselle. L'eau n'est jamais coupée, l'électricité rarement, et il y a toujours un peu de lumière venue de la rue. Celui qui est ressorti, rendre la clé, rejoint l'autre. Si c'est un samedi, nous avons le luxe de deux nuits.
J'étais attablée en salle de travail à la bibliothèque, tout entière dans ma lecture, bien contenue dans le rond éclairé de la lampe et dans le silence entretenu, dans ma bulle, comme on dit. Il a eu ce geste d'ombre sur moi. Il a fait ce que je déteste, ce que je n'ai jamais laissé personne faire avant lui, lire par-dessus mon épaule. Je ne sais pas pourquoi, cette fois, ça ne m'a pas gênée. Je n'ai pas regardé. Passé un tout petit temps d'arrêt et de surprise, j'ai recommencé à lire, et lui de même, derrière moi, debout, après avoir eu cette délicatesse de s'écarter juste de quoi me redonner suffisamment de lumière, et sans jamais salir le silence, ce silence de bibliothèque fait de petits bruits de papier, de chaises à peine poussées et de pas chuchotants. Ses mains se sont posées de part et d'autre des miennes, qui tenait le livre, ses bras tendus ont fait comme des barrières de protection pour mon espace, cet espace de lecture jalousement épousé, notre espace désormais. Et nous avions sans voir nos yeux les mêmes regards, les mêmes pauses, même arrêt des virgules, même fin de phrase. Je sentais en tournant la page qu'il était arrivé en bas d'elle. Nous lisions au même rythme. Et depuis, nous avons veillé à garder ce rythme, même quand ça ne va plus trop entre nous. Nous lisons toujours ensemble. Et si nous nous manquons de quelques lignes, nous nous attendons.
Elle habite une maison au bord de la mer, au bout d'une route inondable à marée haute. Deux fois par jour, la nature ferme ses portes. Elle fait disparaître la route. Je ne peux venir la voir qu'à marée basse.
Je la croise tous les soirs dans le grand escalier qui relie la ville basse à la ville haute. Cet escalier qui n'en finit pas et que je maudissais pour ça. Mais depuis qu'elle le descend, tous les soirs, au moment où moi je le monte, je n'attends que ça toute la journée, l'heure de l'escalier. Je ne traîne plus jamais au travail comme la solitude m'en avait donné l'habitude. Elle aussi, elle est toujours à l'heure, parfois essoufflée, échevelée et encore plus belle. Je ne sais pas si elle s'est dépêchée pour ne pas me manquer ou si elle a eu une dure journée.
Il avait l'air heureux avec moi dans le musée. J'aimais le voir comme ça, enthousiaste, joyeux. Ce n'était pas si souvent. Ce jour-là, on aurait dit qu'il l'oubliait enfin. Cette fille qui le rendait encore si triste, celle d'avant moi, celle dont je n'arrivais pas à le consoler. Les photos exposées lui plaisaient. Il me les montrait, me disait « Regarde ». En sortant, il avait acheté une carte postale reproduisant une de ses photos. La caresse d'une main blanche sur un torse légèrement plus sombre. À l'hôtel, pendant que je dormais à ses côtés, il avait écrit au taux de cette carte et dès le lendemain, il me l'avait envoyée. Il l'avait envoyée à celle qu'il aimait toujours.
Elle est professeure au collège. Pour se faire entendre dans une classe remplie d'élèves bruyants, elle a posé sa voix différemment depuis des années. Elle l'a fait progressivement, d'abord en tâtonnant et sans même s'en rendre compte. En poussant la glotte vers le haut pour parler à son petit monde agité, elle fait résonner les fosses nasales, le sinus, toute cette partie du visage que les chanteurs lyriques appellent « Amachéra ». Elle est ma femme au masque. J'aime tellement sa voix. Je suis sensible à tous les sons. Je suis technicien de studio. J'ai entendu sa voix se transformer petit à petit. Quand elle fait court, le volume de sa voix augmente sans qu'elle ait besoin de crier. Elle se renforce dans les moyens aigus, le spectre s'enrichit et le son en devient plus présent. Elle module sa voix dans le registre selon qu'elle est à la maison ou en classe. Quand elle rentre le soir, elle a parfois encore sa voix de travail, plus puissante que l'autre. Et puis, elle l'ajuste. Elle prend sa voix de nous.
Nous chahutons dans la baignoire. Elle me reproche en riant de mettre de l'eau partout. Mais ce n'est pas le moment de parler. Elle avale le petit morceau de savon que j'ai fait glisser à toute vitesse dans son cou. Après un silence inquiet, elle se remet à rire, en faisant des bulles par la bouche et le nez. Je l'embrasse pour les éclater et partager son rire.
Au début, nouvelle et confuse, je me suis laissée tomber dans les bras qu'il venait d'ouvrir pour moi. Je n'étais entrée en maison de retraite que sous la pression de mes enfants. Je me sentais perdue, je me sentais trahie. Il était là. Il me réconfortait et il me proposait une histoire d'amour consolante. À cet âge où je croyais tout avoir oublié de l'amour. Quand j'ai trouvé mes marques, il m'a quittée. Je n'avais rien oublié de l'amour, ça fait toujours aussi mal. Il s'est tourné vers une pensionnaire qui commence à avoir des signes de démence, avec des troubles de mémoire. Une aide-soignante m'a demandé d'arrêter de pleurer et m'a dit qu'il n'en valait pas la peine. Elle le connaît depuis longtemps. Il ne s'attache qu'à des femmes désorientées. Il veut qu'elles aient besoin de lui. Quand elles se remettent un peu, comme vous, il les abandonne. C'est signe que vous allez mieux.
Il est assis en face de moi dans le tram. casque audio sur les oreilles, il dessine. Il tient plusieurs crayons de couleur dans une même main, réunis en bouquet. Sourd à l'extérieur, mais pas aveugle, il fait, il me semble, le portrait de cette petite fille debout à côté de moi. Elle a un visage taché, très beau, un masque de pigmentation sous les yeux, couvrant presque entièrement ses joues. Ce masque brun sur sa peau très pâle ressemble aux taches que nous faisons deviner les psys à un loup de carnaval qui serait tombé sur ses pommettes. Elle semble gênée. On doit beaucoup se moquer d'elle à l'école. Il me sourit comme si j'étais complice de ce dessin, un vol de disgrâce. Nous devons être les seuls à la trouver si belle. Quand la petite fille descend, je m'approche de lui et je m'autorise, puisqu'il m'a souri, à regarder son carnet de croquis. Il n'a pas dessiné le visage de la petite fille, mais le mien, mon visage quelconque.
Avant de rentrer du travail, elle se change et se nettoie au vestiaire de l'atelier. Elle enlève son bleu qui est vert et elle se passe un gant sur le visage, se lave les mains et les avant-bras, se brosse les cheveux. Elle ramène quand même des odeurs de bois à la maison. Et parfois, oubliée derrière une oreille, un copeau d'aulne, de chêne, de hêtre, de bouleau. Mais c'est dans sa bouche surtout que je goûte aux essences, parce qu'elle a pris cette drôle d'habitude, dans le doute des parfums, des couleurs et des stries, de mâchouiller le bois pour le reconnaître.
Le monde, c'est comme délavé. Je venais de mettre mes lentilles, je les ai retirées, je les ai remises. Rien à faire. Tout est resté inaccessible, même en clignant des paupières. Les choses se dérobaient. Il me semblait que la réalité pleurait, ou bien c'était moi. Mais quelque chose entre le monde et moi, une eau, un trouble, m'empêchait de voir clairement. J'ai pensé que mes lentilles étaient sales, je les ai nettoyées, puis remises à nouveau, et à nouveau, la buée du monde. Et puis je l'ai entendu se lever, lui que je connaissais depuis peu, et je me suis souvenu qu'il portait aussi des lentilles. J'avais mis sa vue qui ne s'accordait pas à la mienne.
On dit que Lazare et Cécile se sont enfuis cette nuit, et que la lune est docile jusqu'au matin n'a pas lui. On dit qu'un foulard de brume fit pour elle un voile blanc, fit à Lazare un costume tissé de nacre et d'argent. On le savait au village que Cécile allait souvent rêvasser dans les herbages et danser avec le vent. On riait de cela, sans amis, sans fiancé, qui rôdait près de la mare et n'allait jamais danser. On dit que Lazare et Cécile ont un soir changé d'avis. C'était pourtant pas facile de se cacher près d'ici. Ils ont joint leur solitude, ils ont partagé le vent, prenant la douce habitude de s'aimer secrètement. De quelques semaines, il parut aux indiscrets que dans sa jupe de laine, Cécile s'alourdissait. Lors, il fallut les entendre tous crier au déshonneur. Mais Cécile, qui est tendre, a préféré le bonheur. On dit que Lazare et Cécile se sont enfuis cette nuit. Il y a bien des imbéciles pour en sourire aujourd'hui. Pourtant, jusqu'au bout des saules, ils se sont tenus la main, puis épaule contre épaule, ils ont suivi leur chemin. On aurait voulu peut-être voir Cécile dans l'étang et sur la branche d'un hêtre trouver Lazare pendant. Sans gêne, on aurait pu suivre leur cortège en soupirant. Mais ceux que l'amour délivre préfèrent s'aimer vivant. On dit que Lazare et Cécile se sont mariés cette nuit dans la lumière fragile des heures d'après minuit. On dit qu'au creux de la mare, la lune en deux se brisa, formant deux anneaux bizarres qu'ils se glissèrent au doigt. Lorsqu'ils ont couru ensemble, le vent leur fit un manteau. Moi qui ne dormais pas, j'en tremble de les avoir vus si beaux. Toi Cécile, toi Lazare, apprenez à votre enfant que jamais on ne sépare ceux qui s'aiment simplement, que jamais on ne sépare ceux qui s'aiment.